Chapitre 4, de 3 à 6 heures de l'après-midi, de 6 à 9 heures du soir, de 9 heures à minuit. Nous avons abandonné le château au moment où le vestibule du milieu forcé et les Suisses repoussés de marche en marche jusqu'aux appartements du roi. Une voix retentit dans les chambres et dans les corridors, criant « Ordre aux Suisses de poser les armes !» Ce livre est probablement le dernier que nous ferons sur cette terrible époque. À mesure que notre récit avance, nous quittons donc le terrain que nous venons de parcourir pour n'y revenir jamais. C'est ce qui nous autorise à mettre dans tous ces détails cette suprême journée sous les yeux de nos lecteurs. Nous en avons d'autant plus le droit que nous le faisons sans aucune prévention, sans aucune haine, sans aucun parti. Le lecteur est entré dans la cour royale à la suite des Marseillais. Il a suivi Billot au milieu de la flamme et de la fumée, et il l'a vu monter avec Pitou, spectre sanglant sorti du milieu des morts, chaque marche de l'escalier au haut duquel nous les avons laissés. À ce moment, les Tuileries étaient prises. Quel est le sombre génie qui avait présidé à la victoire? La colère du peuple, répondra-t-on. Oui, sans doute, mais qui dirigea cette colère? L'homme que nous avons nommé à peine, cet officier prussien marchant sur un petit cheval noir à côté du géant Santerre et de son colossal cheval flamand, l'Alsacien Westermann. Qu'était-ce que cet homme qui, pareil à l'éclair, se faisait visible seulement au milieu de la tempête? Un de ces hommes que Dieu tient cachés dans l'arsenal de ses colères et qu'il ne tire de l'obscurité qu'au moment où il en a besoin, qu'à l'heure où il veut frapper. Il s'appelle Westermann, l'homme du couchant, et en effet, il apparaît quand la royauté tombe pour ne plus se relever. Qui l'a inventé? Qui l'a deviné? Quel a été l'intermédiaire entre lui et Dieu? Qui a compris qu'au brasseur, géant taillé dans le bloc matériel de la chair, il fallait donner une âme pour cette lutte où les titans devaient détrôner Dieu? Qui a parfait Gérion avec Prométhée? Qui a complété Santerre avec Westermann? C'est Danton. Où le terrible tribun a-t-il été chercher ce vainqueur? Dans une sentine, dans un égout, dans une prison, à Saint-Lazare. Westermann était accusé, entendons-nous bien, pas convaincu, accusé d'avoir fait de faux billets de caisse et arrêté préventivement. Danton avait besoin, pour l'œuvre du 10 août, d'un homme qui ne put reculer, parce qu'en reculant, il montait au pilori. Danton couvait du regard le mystérieux prisonnier. Au jour et à l'heure où il en eut besoin, il brisa chaînes et verrous de sa main puissante et dit au prisonnier « Viens ». La révolution consiste non seulement, comme je l'ai dit, à mettre dessus ce qui est dessous, mais encore à mettre les captifs en liberté et en prison les gens libres. Non seulement les gens libres, mais encore les puissants de la terre, les grands, les princes, les rois. Sans doute c'était dans sa sécurité de ce qui allait advenir que Danton parut si engourdi pendant les fiévreuses ténèbres qui précédèrent la sanglante aurore du 10 août. Il avait, dès la veille, semé le vent, il n'avait plus à s'inquiéter de rien, certain qu'il était de recueillir la tempête. Ce vent, ce fut Westermann, la tempête, ce fut Santerre, cette gigantesque personnification du peuple. Santerre se montra à peine ce jour-là. Westermann fit tout, fut partout. Ce fut Westermann qui dirigea le mouvement de jonction du faubourg Saint-Marceau et du faubourg Saint-Antoine au Pont-Neuf. Ce fut Westermann qui, monté sur son petit cheval noir, apparut en tête de l'armée sous le guichet du carrousel. Ce fut Westermann qui, comme s'il s'agissait de faire ouvrir la porte d'une caserne à un régiment, au bout de son étape, vint heurter de la poignée de son épée à la porte des Tuileries. Nous avons vu comment cette porte s'était ouverte, comment les Suisses avaient fait héroïquement leur devoir, comment ils avaient battu en retraite, sans fuir, comment ils avaient détruit, sans être vaincus. Nous les avons suivis, marche à marche, dans l'escalier qu'ils couvrent de leurs morts. Suivons-les pas à pas dans les Tuileries qu'ils vont joncher de cadavres. Au moment où l'on apprit que le roi venait de quitter le château, les 200 ou 300 gentilshommes qui étaient venus pour mourir avec le roi se réunirent dans la salle des gardes de la reine afin de se demander si, le roi n'étant plus là pour mourir avec eux, comme il s'y était solennellement engagé, il devait mourir sans lui. Alors ils décidèrent, puisque le roi était allé à l'Assemblée nationale, d'aller eux-mêmes y rejoindre le roi. Ils rallièrent tous les Suisses qu'ils purent rencontrer, une vingtaine de gardes nationaux, et au nombre de 500 descendirent vers le jardin. Le passage était fermé par une grille appelée la grille de la reine. On voulut faire sauter la serrure résista. Les plus forts se mirent à secouer un barreau et parvinrent à le briser. L'ouverture donnait passage à la troupe, mais homme à homme seulement. On était à 30 pas des bataillons postés à la grille du pont royal. Ce furent deux Suisses qui sortirent les premiers par l'étroit passage. Tous deux furent tués avant d'avoir fait 4 pas. Tous les autres passèrent sur leurs cadavres. La troupe fut criblée de coups de fusil, mais comme les Suisses, avec leurs uniformes éclatants, offraient un plus facile point de mire, ce fut sur les Suisses que les balles se dirigèrent de préférence. Pour 2 gentilshommes tués et 1 blessé, 60 ou 70 Suisses tombèrent. Les 2 gentilshommes tués étaient messieurs de Carteja et de Clermont-d'Amboise. Le gentilhomme blessé était monsieur de Viauménil. En marchant vers l'Assemblée nationale, on passa devant un corps de garde appuyé contre la terrasse du bord de l'eau et placé sous les arbres. La garde sortit, fit feu sur les Suisses, dont 8 ou 10 tombèrent encore. Le reste de la colonne, qui, en 80 pas à peu près, avait perdu 80 hommes, se dirigea vers l'escalier des feuillants. Monsieur de Choiseul les vit de loin, et, l'épée à la main, courant à eux sous le feu des canons, et du pont royal et du pont tournant, essaya de les rallier. « À l'Assemblée nationale » cria-t-il. Et, se croyant suivi par les 400 gentilshommes qui restaient, il s'élança dans les corridors et à travers l'escalier qui conduisait à la salle des séances. À la dernière marche, il rencontra Merlin. « Que faites-vous ici, l'épée à la main, malheureux ?» lui dit le député. Monsieur de Choiseul regarda autour de lui, il était seul. « Remettez votre épée au fourreau et allez retrouver le roi, » lui dit Merlin. « Il n'y a que moi qui vous ai vu, donc personne ne vous a vu. » Qu'était devenue cette troupe dont Monsieur de Choiseul se croyait suivi? Les coups de canon et la fusillade l'avaient fait tourner sur elle-même, comme un tourbillon de feuilles sèches, et l'avaient poursuivi sur la terrasse de l'Orangerie. De la terrasse de l'Orangerie, les fugitifs s'élancèrent sur la place Louis XV et se dirigèrent vers le garde-meuble pour gagner les boulevards ou les Champs-Élysées. Monsieur de Viauménil, 8 ou 10 gentilshommes et 5 Suisses se réfugièrent à l'hôtel de l'ambassade de Venise, situé rue Saint-Florentin, et dont ils avaient trouvé la porte ouverte. Cela était sauvé. Le reste de la colonne essayait d'atteindre les Champs-Élysées. 2 coups de canon, chargés à la mitraille, partirent du pied de la statue de Louis XV et brisèrent la colonne en 3 tronçons. L'un s'enfuit par le boulevard et rencontra la gendarmerie qui arrivait avec le bataillon des Capucines. Les fugitifs se crurent sauvés. Monsieur de Villiers, ancien aide-major de gendarmerie lui-même, courut à l'un des cavaliers, les bras ouverts en criant « À nous, mes amis !» Le cavalier tira un pistolet de ses fontes et lui brûla la cervelle. À cette vue, 30 Suisses et 1 gentilhomme, ci-devant page du roi, se précipitèrent dans l'hôtel de la marine. Là, on se demanda ce que l'on devait faire. Les 30 Suisses furent d'avis de se rendre, et voyant apparaître 800 culottes, déposèrent leurs fusils en criant « Vive la nation !»« Ah, traître !» dirent les 100 culottes. « Vous vous rendez parce que vous vous croyez pris ? Vous criez « Vive la nation !» parce que vous croyez que ce cri vous sauvera ? Non, pas de quartier !» Et en même temps, 2 Suisses tombent, l'un frappé d'un coup de pique, l'autre d'un coup de fusil. Aussitôt, leur tête est coupée et mise au bout d'une pique. Les Suisses, furieux de la mort de leurs 2 camarades, ressaisissent leurs fusils et font feu tous à la fois. 700 culottes sur 8 tombent morts ou blessés. Les Suisses s'élancent alors sous la grande porte pour se sauver et se trouvent face à face avec la bouche d'un canon. Ils reculent, le canon avance, tous se groupent dans un angle de la cour, le canon pivote, tourne sa gueule de leur côté et fait feu. 23 sont tués sur 28. Par bonheur, presque en même temps, et au moment où la fumée aveugle ceux qui viennent de faire feu, une porte s'ouvre derrière les 5 Suisses qui restent et l'ex-page du roi. Tous 6 se précipitent par cette porte qui se referme. Les patriotes n'ont pas vu cette espèce de trappe anglaise qui leur a dérobé les survivants. Ils croient avoir tout tué et s'éloignent, entraînant leurs pièces de canon avec des cris de triomphe. Le 2e tronçon se composait d'une 30aine de soldats et de gentilshommes. Il était commandé par M. Forestier de Saint-Venant, cerné de tous côtés à l'entrée des Champs-Élysées, et le chef voulut au moins faire payer sa mort. À la tête de ses 30 hommes, lui, l'épée à la main, eux, la baïonnette au bout du fusil, il chargea 3 fois tout un bataillon massé au pied de la statue. Dans ces 3 charges, il perdit 15 hommes. Avec les 15 autres, il essaya de passer à travers une éclaircie et de gagner les Champs-Élysées. Une décharge de mousqueterie lui tua 8 hommes. Les 7 autres se dispersèrent et furent poursuivis et sabrés par la gendarmerie. Monsieur de Saint-Venant allait trouver un refuge dans le café des ambassadeurs quand un gendarme mit son cheval au galop, franchit le fossé qui séparait la promenade de la grande route et d'un coup de pistolet brisa les reins du malheureux commandant. Le 3e tronçon, composé de 60 hommes, avait atteint les Champs-Élysées et se dirigeait vers Courbevoie par cet instinct qui fait que les pigeons se dirigent vers les colombiers, les moutons vers la bergerie. À Courbevoie étaient les casernes. Enveloppés par la gendarmerie à cheval et par le peuple, ils furent conduits à l'hôtel de ville, où on espérait les mettre en sûreté. 2 ou 3 000 furieux, entassés sur la place de Grève, les arrachèrent à leur escorte et les massacrèrent. Un jeune gentilhomme, le chevalier Charles d'Autichan, fuyait du château par la rue de l'Échelle, un pistolet dans chaque main. 2 hommes essaient de l'arrêter, il les tue tous les 2. La populace s'empare de lui et l'entraîne jusqu'à la Grève pour l'y exécuter solennellement. Mais, heureusement, elle oublie de le fouiller. À la place de ces 2 pistolets inutiles et qu'il a jetés, un couteau lui reste. Il l'ouvre dans sa poche, attendant l'instant de s'en servir. Au moment où il arrive sur la place de l'hôtel de ville, on y égorge les 60 Suisses qu'on vient d'amener. Ce spectacle distrait ceux qui le gardent. Il tue ses 2 plus proches voisins de 2 coups de couteau, puis se glisse dans la foule comme un serpent et disparaît. Les 100 hommes qui ont conduit le roi à l'Assemblée nationale et qui, réfugiés aux Feuillants, y ont été désarmés, les 500 dont nous avons raconté l'histoire, quelques fugitifs isolés comme M. Charles d'Autichan que nous venons de voir échapper à la mort avec tant de bonheur, sont les seuls qui ont quitté le château. Le reste s'est fait tuer sous le vestibule, dans les escaliers, sur le palier, ou a été égorgé, soit dans les appartements, soit dans la chapelle. 900 cadavres de Suisses ou de gentilshommes jonchent l'intérieur des Tuileries. Le peuple était entré au château, comme on entre dans le repaire d'une bête féroce. Il trahissait ses sentiments par ses cris « Mort au loup, mort à la louve, mort au louveteau !» S'il eût rencontré le roi, la reine et le dauphin, il eût certes, sans hésiter, croyant faire justice, abattu leurs 3 têtes d'un seul coup. Avouons que c'eût été bien heureux pour elle. En l'absence de ceux qu'il poursuivait de leurs cris, qu'il cherchait jusque dans les armoires, jusque derrière les tapisseries, jusque sous les couchettes, les vainqueurs durent se venger surtout sur les choses comme sur les hommes. Ils tuèrent et brisèrent avec la même férocité impassible ces murs où s'étaient décrétés la Saint-Barthélemy et le massacre du Champ de Mars, appelant de terribles vengeances. On le voit, nous ne débarbouillons pas le peuple, nous le montrons au contraire crotté et sanglant comme il était. Toutefois, hâtons-nous de le dire, les vainqueurs sortirent du château les mains rouges mais vides. Pelletier, qui ne peut pas être accusé de partialité en faveur des patriotes, raconte qu'un marchand de vin nommé Mallet apporta à l'Assemblée 173 louis d'or trouvés sur un prêtre tué au château, que 25 sans-culottes y apportèrent une malle pleine de la vaisselle du roi, qu'un combattant jeta une croix de Saint-Louis sur le bureau du président, qu'un autre y déposa la montre d'un Suisse, un autre un rouleau d'assignat, un autre un sac d'écus, un autre des bijoux, un autre des diamants, un autre enfin une cassette appartenant à la reine et contenant 1500 louis. Et, ajoute ironiquement l'historien, sans se douter qu'il fait de tous ces hommes un magnifique éloge, et l'Assemblée exprima son regret de ne pas connaître les noms des citoyens modestes qui étaient venus remettre fidèlement dans son sein tous ces trésors volés au roi. Nous ne sommes pas des flatteurs du peuple, nous le savons, c'est le plus ingrat, le plus capricieux, le plus inconstant de tous les maîtres. Nous dirons donc ses crimes comme ses vertus. Ce jour-là, il fut cruel, il se rougit les mains avec délices. Ce jour-là, gentilhomme jeté vivant par les fenêtres, Suisse mort ou mourant, éventré sur les escaliers, cœur arraché aux poitrines et pressé à deux mains comme des éponges, tête coupée et portée au bout de pique. Ce jour-là, ce peuple qui se croyait déshonoré de voler une montre ou une croix de Saint-Louis se donna toutes les sombres joies de la vengeance et de la cruauté. Et cependant, au milieu de ce massacre des vivants, de cette profanation des morts, parfois, comme le lion repu, il fit grâce. Mesdames de Tarente, de La Rochemont, de Ginestous, mademoiselle Pauline de Tourzel, étaient restées aux Tuileries, abandonnées par la reine. Elles étaient dans la chambre même de Marie-Antoinette. Le château pris, elles entendirent les cris des mourants, les menaces des vainqueurs, les pas qui se rapprochaient d'elles, précipités, terribles, impitoyables. Madame de Tarente alla ouvrir la porte. « Entrez, dit-elle, nous ne sommes que des femmes. » Les vainqueurs entrèrent, leurs fusils fumants, leurs sabres ensanglantés à la main. Les femmes tombèrent à genoux. Les égorgeurs avaient déjà le couteau levé sur elles, les appelant les conseillères de Madame Veto, les confidentes de l'Autrichien. Un homme à longue barbe, envoyé par Pétion, cria du seuil de la porte « Faites grâce aux femmes, ne déshonorez pas la nation !» Et grâce leur fut faite. Madame Campan, à qui la reine avait dit « Attendez-moi, je vais revenir, ou je vous enverrai chercher pour me rejoindre, Dieu sait où !» Madame Campan attendait dans sa chambre que la reine revînt ou l'envoya chercher. Elle raconte elle-même qu'elle avait complètement perdu la tête au milieu de l'horrible tumulte, et que, ne voyant pas sa sœur cachée derrière quelques rideaux ou accroupie derrière quelques meubles, elle crut la trouver dans une chambre de l'entresol et descendit rapidement vers cette pièce. Mais là, elle ne vit que deux femmes de chambre qui lui appartenaient et une espèce de géant qui était éduc de la reine. À la vue de cet homme, Madame Campan, tout éperdue qu'elle l'était, comprit que le danger était pour lui et non pour elle. « Fuyez donc » cria-t-elle, « fuyez donc, malheureux. Les valets de pied sont déjà loin. Fuyez, il est temps encore. » Mais lui essayait de se lever et retombait, criant d'une voix plaintive, « Hélas, je ne puis, je suis mort de peur. » Comme il disait cela, une troupe d'hommes ivres, furieux, ensanglantés, parut sur le seuil, se jeta sur l'éduc et le mit en morceaux. Madame Campan et les deux femmes s'enfuirent par un petit escalier de service. Une partie des égorgeurs, voyant ces trois femmes qui s'enfuyaient, s'élancèrent à leur poursuite et les eurent bientôt atteintes. Les deux femmes de chambre tombaient à genoux, empoignaient, tout en suppliant les meurtriers, des lames, des sabres entre leurs mains. Madame Campan, arrêtée dans sa course au haut de l'escalier, avait senti une main furieuse s'enfoncer dans son dos pour la saisir par ses vêtements. Elle voyait, comme un éclair mortel, une lame d'un sabre briller au-dessus de sa tête. Elle mesurait enfin ce court instant qui sépare la vie de l'éternité et qui, si court qu'il soit, contient cependant tout un monde de souvenirs, lorsque du bas de l'escalier une voix monta avec l'accent du commandement. « Que faites-vous là-haut ? » demanda cette voix. « Hein ? » répondit le meurtrier. « Qu'y a-t-il ? » ? On ne tue pas les femmes, entendez-vous ? » reprit la voix d'en bas. Madame Campan était à genoux. Déjà le sabre était levé sur sa tête, déjà elle pressentait la douleur qu'elle allait éprouver. « Lève-toi, coquine !» dit son bourreau. « La nation te pardonne !» Que faisait pendant ce temps le roi dans la loge du logographe ? Le roi avait faim et demandait son dîner. On lui apporta du pain, du vin, un poulet, des viandes froides et des fruits. Comme tous les princes de la maison de Bourbon, comme Henri IV, comme Louis XIV, c'était un grand mangeur que le roi. Derrière les émotions de son âme, rarement trahies par son visage aux fibres molles et détendues, veillaient incessamment ces deux grandes exigences du corps, le sommeil et la faim. Nous l'avons vu obligé de dormir au château, nous le voyons obligé de manger à l'assemblée. Le roi brisa son pain et découpa son poulet comme un rendez-vous de chasse, sans s'inquiéter le moins du monde des yeux qui le regardaient. Parmi ses yeux, il y en avait deux qui brûlaient, faute de pouvoir pleurer, c'étaient ceux de la reine. Elle, elle avait tout refusé. Le désespoir la nourrissait. Il lui semblait que, les pieds dans ce sang précieux de Charny, elle eût pu rester là éternellement et vivre comme une fleur des tombeaux, sans autre nourriture que celle qu'elle recevait de la mort. Elle avait beaucoup souffert au retour de Varennes, elle avait beaucoup souffert dans sa captivité des Tuileries, elle avait beaucoup souffert dans cette nuit et dans cette journée qui venait de s'écouler. Mais peut-être avait-elle moins souffert qu'en regardant manger le roi. Et cependant la situation eût été assez grave pour ôter l'appétit à un autre homme que Louis XVI. L'assemblée, où le roi était venu chercher une protection, eût eu besoin d'être protégée elle-même. Elle ne se dissimulait point sa faiblesse. Le matin, elle avait voulu empêcher le massacre de Sulot, et elle n'avait pas pu. À 2 heures, elle avait voulu empêcher le massacre des Suisses, et elle ne l'avait pas pu. Maintenant, elle était menacée elle-même par une foule exaspérée qui criait « La déchéance! La déchéance !» Une commission s'assembla, séance tenante. Vergniaud en faisait partie, il donna la présidence à Guadet afin que le pouvoir ne sortît point des mains de la Gironde. La délibération des commissaires fut courte, on délibérait en quelque sorte sous l'écho retentissant de la fusillade et du canon. Ce fut Vergniaud qui prit la plume et qui rédigea l'acte de suspension provisoire de la royauté. Il rentra dans l'assemblée, morne, abattu, n'essayant de cacher ni sa tristesse ni son abattement, car c'était un dernier gage qu'il donnait au roi de son respect pour la royauté, à l'hôte de son respect pour l'hospitalité. « Messieurs, dit-il, je viens au nom de la commission extraordinaire vous présenter une mesure bien rigoureuse, mais je m'en rapporte à la douleur dont vous êtes pénétrés pour juger combien il importe au salut de la patrie que vous l'adoptiez sur l'heure. L'Assemblée nationale, considérant que les dangers de la patrie sont arrivés à leur comble, que les maux dont j'ai mis l'Empire dérivent principalement des défiances qu'inspire la conduite du chef du pouvoir exécutif dans une guerre entreprise en son nom contre la Constitution et contre l'indépendance nationale, que ces défiances ont provoqué de toutes les parties de l'Empire le vœu de la révocation de l'autorité confiée à Louis XVI, considérant néanmoins que le corps législatif ne veut agrandir par aucune usurpation sa propre autorité et qu'il ne peut concilier son serment à la Constitution et sa ferme volonté de sauver la liberté qu'en faisant appel à la souveraineté du peuple, décrète ce qui suit. Le peuple français est invité à former une convention nationale. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions. Un décret sera proposé dans la journée pour la nomination d'un gouverneur du prince royal. Le paiement de la liste civile sera suspendu. Le roi et la famille royale demeureront dans l'enceinte du corps législatif jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris. Le département fera préparer le Luxembourg pour leur résidence sous la garde des citoyens. Le roi écouta ce décret avec son impassibilité ordinaire. Puis, se penchant hors de la loge du logographe et s'adressant à Vergniaud lorsque celui-ci revint prendre sa place de président, « Savez-vous, lui dit-il, que ce n'est pas très constitutionnel ce que vous venez de faire là ?»« C'est vrai, sire, répondit Vergniaud, seulement c'est le seul moyen de sauver votre vie. Si nous n'accordons pas la déchéance, ils prendront la tête. » Le roi fit un mouvement des lèvres et des épaules qui signifiait « c'est possible ». Et il reprit sa place. En ce moment, la pendule placée au-dessus de sa tête sonna l'heure. Il compta chaque vibration. Puis, quand la dernière fut éteinte, 9 heures, dit-il. Le décret de l'Assemblée portait que le roi et la famille royale demeureraient dans l'enceinte du corps législatif jusqu'à ce que le calme fût rétabli dans Paris. À 9 heures, les inspecteurs de la salle vinrent chercher le roi et la reine pour les conduire au logement provisoire préparé pour eux. Le roi fit signe de la main qu'il demandait un instant. En effet, on s'occupait d'une chose qui n'était pas sans intérêt pour lui. On nommait un ministère. Le ministre de la Guerre, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances étaient tous nommés. C'étaient les ministres chassés par le roi, Roland, Clavière et Servant. Restaient la justice, la marine et les affaires étrangères. Danton fut nommé à la justice, Monge à la marine, Lebrun aux affaires étrangères. Le dernier ministre nommé, « Allons, dit le roi, et se levant, il sortit le premier. La reine le suivit, elle n'avait rien pris depuis sa sortie des Tuileries, pas même un verre d'eau. Madame Élisabeth, le dauphin, Madame Royale, Madame de Lamballe et Madame de Tourzel leur firent cortège. L'appartement préparé pour le roi était situé à l'étage supérieur du vieux monastère des Feuillants. Il était habité par l'archiviste Camus et se composait de 4 chambres. Dans la première, qui n'était à proprement parler qu'une antichambre, les serviteurs du roi, restés fidèles à sa mauvaise fortune, s'arrêtèrent. C'était le prince de Poix, le baron d'Aubier, monsieur de Saint-Pardon, monsieur de Goguelat, monsieur de Chamier et monsieur Hue. Le roi prit pour lui la seconde chambre, la troisième fut offerte à la reine. C'était la seule qui fut garnie d'un papier. En y entrant, Marie-Antoinette se jeta sur le lit, mordant le traversin et en proie à une douleur près de laquelle doit être bien peu de chose celle du patient sur la roue. Ses 2 enfants demeurèrent avec elle. La 4e pièce, tout étroite qu'elle l'était, resta pour Madame Élisabeth, pour Madame de Lamballe et pour Madame de Tourzel, qui s'y établirent comme elles purent. La reine manquait de tout, d'argent, car on lui avait pris sa bourse et sa montre dans le tumulte qui s'était fait à la porte de l'assemblée, de linge, car on comprend qu'elle n'avait rien emporté des Tuileries. Elle emprunta 25 louis à la sœur de Madame Campan et envoya chercher du linge à l'ambassade d'Angleterre. Le soir, l'assemblée fit proclamer aux flambeaux dans les rues de Paris les décrets de la journée. Ces flambeaux, au moment où ils passaient devant le carrousel, dans la rue Saint-Honoré et sur les quais, éclairaient un triste spectacle. La lutte matérielle était finie, mais le combat durait encore dans les cœurs, car la haine et le désespoir survivaient à la lutte. Les récits contemporains, la légende royaliste, se sont longuement et tendrement apitoyés, comme nous sommes tout prêts à le faire nous-mêmes, sur les augustes têtes du front desquelles cette terrible journée arrachait la couronne. Ils ont consigné le courage, la discipline, le dévouement des Suisses et des gentilshommes. Ils ont compté les gouttes de sang versées par les défenseurs du trône. Ils n'ont pas compté les cadavres du peuple, les larmes des mères, des sœurs et des veuves. Disons-en un mot. Pour Dieu qui, dans sa haute sagesse, non seulement permet, mais encore dirige les événements d'ici-bas, le sang est le sang, les larmes sont les larmes. Le nombre des morts était bien autrement considérable chez les hommes du peuple que chez les Suisses et les gentilshommes. Voyez plutôt ce que dit l'auteur de l'histoire de la Révolution du 10 août, ce même Pelletier, royaliste s'il en fut. La journée du 10 août coûta à l'humanité environ 700 soldats et 22 officiers, 20 gardes nationaux, 500 fédérés, 3 commandants de troupes nationales, 40 gendarmes, plus de 100 personnes de la maison domestique du roi, 200 hommes tués pour vol. Les 19 citoyens massacrés au Feuillant, monsieur de Clermont-d'Amboise, et environ 3000 hommes du peuple tués sur le carrousel, dans le jardin des Tuileries, ou sur la place Louis XV, au total 4600 hommes environ. Et c'est concevable, on a vu les précautions prises pour fortifier les Tuileries. Les Suisses avaient généralement tiré, abrité derrière de bonnes murailles. Les assaillants, au contraire, n'avaient que leur poitrine pour parer les coups. 3500 insurgés, sans compter les 200 voleurs fusillés, avaient donc péri. Ce qui suppose autant de blessés à peu près. L'historien de la Révolution du 10 août ne parle que des morts. Beaucoup d'entre ces 3500 hommes, mettons la moitié, beaucoup étaient des gens mariés, de pauvres pères de famille, qu'une intolérable misère avait poussé au combat avec la première arme qui leur était tombée sous la main, ou même sans arme, et qui, pour aller chercher la mort, avaient laissé dans leur taudis des enfants affamés, des femmes au désespoir. Cette mort, ils l'avaient trouvée, soit dans le carrousel où la lutte avait commencé, soit dans les appartements du château où elle s'était continuée, soit dans le jardin des Tuileries où elle s'était éteinte. De 3 heures de l'après-midi à 9 heures du soir, on avait enlevé en hâte et jeté au cimetière de la Madeleine tout soldat portant un uniforme. Quant aux cadavres des gens du peuple, c'était autre chose. Les tombereaux les ramassaient et les ramenaient dans leurs quartiers respectifs. Presque tous étaient ou du faubourg Saint-Antoine ou du faubourg Saint-Marceau. Là, particulièrement sur la place de la Bastille et sur celle de l'Arsenal, sur la place Maubert ou sur celle du Panthéon, là, on les étalait côte à côte. Chaque fois qu'une de ces sombres voitures, roulant pesante et laissant une trace de sang derrière elle, entrait dans l'un ou l'autre faubourg, la foule des mères, des femmes, des sœurs, des enfants l'entourait avec une mortelle agonie. Et puis, à mesure que les reconnaissances se faisaient entre la vie et la mort, les cris, les menaces, les sanglots éclataient, c'étaient des malédictions inouïes et inconnues, qui, s'élevant comme une troupe d'oiseaux nocturnes ou de mauvais augure, battaient des ailes dans l'obscurité et s'envolaient plaintives vers ces funestes tuileries. Tout cela planait, comme ces bandes de corbeaux des champs de bataille, sur le roi, sur la reine, sur la cour, sur cette camarilla autrichienne qui l'entourait, sur ces nobles qui la conseillaient. Les uns se promettaient la vengeance de l'avenir, et ils se la sont donnée au 2 septembre et au 21 janvier. Les autres reprenaient une pique, un sabre, un fusil, et ivres de sang, du sang qu'ils venaient de boire par leurs yeux, rentraient dans Paris pour tuer. Tuer qui ? Tout ce qui restait de ces Suisses, de ces nobles, de cette cour, pour tuer le roi, pour tuer la reine, s'ils les avaient trouvés. On avait beau leur dire, mais en tuant le roi et la reine, vous faites des enfants orphelins, en tuant les nobles, vous faites des femmes veuves, des sœurs en deuil. Femmes, sœurs, enfants répondaient, mais nous aussi, nous sommes des orphelins, nous aussi, nous sommes des sœurs en deuil, nous aussi, nous sommes des veuves. Et, le cœur plein de sanglots, ils allaient à l'assemblée, ils allaient à l'abbaye, se heurtant les têtes aux portes et criant « Vengeance, vengeance !» C'était un spectacle terrible que celui de ces Tuileries ensanglantées, fumantes, désertées par tous excepté par les cadavres et par 3 ou 4 postes qui veillaient à ce que, sous prétexte de reconnaître leur mort, les visiteurs nocturnes ne vinssent papiller cette pauvre demeure royale aux portes enfoncées, aux fenêtres brisées. Il y avait un poste sous chaque vestibule, au pied de chaque escalier. Le poste du pavillon de l'horloge, c'est-à-dire du grand escalier, était commandé par un jeune capitaine de la garde nationale, à qui la vue de tout ce désastre inspirait sans doute une grande pitié, si l'on en jugeait par l'expression de sa physionomie à chaque tombereau de cadavres que l'on emportait en quelque sorte sous sa présidence, mais sur les besoins matériels duquel les événements terribles qui venaient de se passer ne semblaient point avoir eu plus d'influence que sur le roi. Car vers 11 heures du soir, il était occupé à satisfaire un monstrueux appétit aux dépens d'un pain de 4 livres qu'il tenait assujetti sous son bras gauche, tandis que sa main droite, armée d'un couteau, en retranchait incessamment de larges tartines qu'il introduisait dans une bouche dont la largeur se mesurait à la dimension du lopin de nourriture qu'elle était destinée à recevoir. Appuyé contre une de ces colonnes de vestibule, il regardait passer, pareil à des ombres, cette silencieuse procession de mères, d'épouses, de filles, qui venaient, éclairées par des torches posées de distance en distance, redemander au cratère éteint les cadavres de leur père, de leur mari ou de leur fils. Tout à coup, et à la vue d'une espèce d'ombre à moitié voilée, le jeune capitaine tressaillit. « Madame la comtesse de Charny, » murmura-t-il. L'ombre passa, sans entendre et sans s'arrêter. Le jeune capitaine fit signe à son lieutenant. Le lieutenant vint à lui. « Désiré, » dit-il, « voilà une pauvre dame de la connaissance de Monsieur Gilbert qui vient sans doute chercher son mari parmi les morts. Il faut que je la suive pour le cas où elle aurait besoin de renseignements ou de secours. Je te laisse le commandement du poste. Veille pour 2. »« Diable, » répondit le lieutenant, « que le capitaine avait désigné sous ce prénom de Désiré, auquel nous ajouterons le nom de Maniquet. Elle a l'air d'une fière aristocrate, sa dame. « Eh, c'est qu'aussi, c'en est une d'aristocrate, » dit le capitaine. « C'est une comtesse. »« Ah, va donc, alors je veillerai pour 2. » La comtesse de Charny avait déjà tourné le premier angle de l'escalier lorsque le capitaine, se détachant de sa colonne, commença à la suivre à la distance respectueuse d'une 15aine de pas. Celui-ci ne s'était pas trompé, c'était bien son mari que cherchait la pauvre Andrée. Seulement, elle le cherchait, non avec les tressaillements anxieux du doute, mais avec la morne conviction du désespoir. Lorsque, se réveillant au milieu de sa joie et de son bonheur à l'écho des événements de Paris, Charny, pâle mais résolu, était venu dire à sa femme, Cher André, le roi de France court risque de la vie et a besoin de tous ses défenseurs. Que dois-je faire? André avait répondu, allez où ton devoir t'appelle, mon Olivier, et mourir pour le roi s'il le faut. Mais toi, avait demandé Charny. Oh, pour moi, avait repris André, ne sois pas inquiet. Comme je n'ai vécu que par toi, Dieu permettra sans doute que je meure avec toi. Et dès lors, tout avait été convenu entre ces grands cœurs. On n'avait pas échangé un mot de plus, on avait fait venir les chevaux de poste, on était parti, et 5 heures après, on était descendu dans le petit hôtel de la rue Coq-Héron. Le même soir, Charny, comme nous l'avons vu, au moment où Gilbert, comptant sur son influence, allait lui écrire de revenir à Paris, Charny, vêtu de son costume d'officier de marine, s'était rendu chez la reine. Depuis 7 heures, on le sait, il ne l'avait pas quitté. André était resté seul avec ses femmes, enfermé et priant. Elle avait eu un instant l'idée d'imiter le dévouement de son mari et d'aller redemander sa place près de la reine, comme son mari allait redemander sa place près du roi, mais elle n'en avait pas eu le courage. La journée du 9 s'était écoulée pour elle dans les angoisses, mais sans rien apporter de bien positif. Le 10, vers 9 heures du matin, elle avait entendu retentir les premiers coups de canon. Inutile de dire que chaque écho du tonnerre guerrier faisait vibrer jusqu'à la dernière fibre de son cœur. Vers 2 heures, la fusillade elle-même s'éteignit. Le peuple était-il vainqueur ou vaincu? Elle s'informa. Le peuple était vainqueur. Qu'était devenu Charny dans la terrible lutte? Elle le connaissait, il devait en avoir pris sa large part. Elle s'informa encore, on lui dit que presque tous les Suisses avaient été tués, mais que presque tous les gentilshommes s'étaient sauvés. Elle l'attendit. Charny pouvait rentrer sous un déguisement quelconque. Charny pouvait avoir besoin de fuir sans retard. Les chevaux furent attelés et mangèrent à la voiture. Chevaux et voitures attendaient leur maître, mais André savait bien que quelque danger qu'il courut, le maître ne partirait pas sans elle. Elle fit ouvrir les portes afin que rien ne retardât la fuite de Charny si Charny fuyait, et elle continua d'attendre. Les heures s'écoulaient. « S'il est caché quelque part, se disait André, il ne pourra sortir qu'à la nuit. Attendons la nuit. » La nuit vint, Charny ne reparut point. Au mois d'août, la nuit vient tard. À 10 heures seulement, André perdit tout espoir. Elle jeta un voile sur sa tête et sortit. Tout le long de son chemin, elle rencontra des groupes de femmes se tordant les mains, des bandes d'hommes criant « Vengeance !» Elle passa au milieu des uns et des autres. La douleur des uns et la colère des autres la sauvegardaient. D'ailleurs, c'était aux hommes qu'on en voulait ce soir-là, et non pas aux femmes. De l'un comme de l'autre côté, les femmes pleuraient. André arriva sur le carrousel, elle entendit la proclamation des décrets de l'Assemblée nationale. Le roi et la reine étaient sous la sauvegarde de l'Assemblée. Voilà tout ce qu'elle comprit. Elle vit s'éloigner 2 ou 3 tombereaux et demanda ce qu'emportaient ces tombereaux. On lui répondit que c'était des cadavres ramassés sur la place du carrousel et dans la cour royale. On n'en était encore que là de l'enlèvement des morts. André se dit que ce n'était ni sur le carrousel ni dans la cour royale que devait avoir combattu Charny, mais à la porte du roi ou à la porte de la reine. Elle franchit la cour royale, traversa le grand vestibule et monta l'escalier. Ce fut en ce moment que Pitou, qui en sa qualité de capitaine commandait le poste du grand vestibule, la vit, la reconnut et la suivit.